Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Le défi permanent des Nations Unies, depuis qu'elles existent, c'est rester pertinent sur toutes les grandes problématiques internationales, celle de la paix, qui me concerne plus directement. Il faut que l'ONU reste à la pointe de la réflexion et de l'action, parce que l'ONU, de toute façon, est incontournable et irremplaçable.
Ces mots sont ceux d'Hervé Latsous, le nouveau patron du maintien de la paix à l'ONU. Escale au bureau de ce diplomate chevronné qui a occupé de nombreux postes au sein du ministère des Affaires étrangères de la France après y être entré en 1971. Hervé Latsous a été en poste à Hong Kong, à Canberra, à Beijing ainsi qu'à New York au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'ONU. Avant d'assumer ses fonctions actuelles, il a été directeur de cabinet du ministère français des Affaires étrangères. Hervé Latsous, pour qui le maintien de la paix n'est autre qu'un partenariat entre pays contributeurs de troupes et pays hôtes. Hervé Latsous qui nous surprend en déclarant que l'expression « usage robuste de la force » n'est pas son concept favori. Ainsi s'affirme l'adjoint de Ban Ki-moon au maintien de la paix, 2 mois à peine après sa prise de fonction. Un Hervé Latsous qui ne prétend pas vouloir changer le monde, mais qui semble bien placé pour faire le boulot et peut-être rajouter quelques pierres à l'édifice de la paix. Hervé Latsous, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que vous étiez nommé à ce poste ? Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit ?
Eh bien, surtout l'idée que, après effectivement près de 40 ans de diplomatie nationale, l'idée de pouvoir servir les Nations Unies, une organisation dont j'apprécie les idéaux depuis très longtemps. Donc voilà, c'est une nouvelle perspective d'engagement. J'ai trouvé ça extrêmement stimulant et passionnant.
Alors justement, le passage de la fonction de diplomate à celle de chef des opérations de maintien de la paix, avec pour 2 patrons et Ban Ki-moon et les 15 membres du Conseil de sécurité, est-ce que cela s'opère facilement ? Comment vous faites pour vous adapter à vos nouvelles fonctions au siège des Nations Unies ?
La question ne se pose pas. Vous savez, on change effectivement de leadership. On travaille sous l'autorité du secrétaire général, de nos mandants, donc effectivement des pays du Conseil de sécurité, au premier chef, mais plus généralement du membership de l'organisation, les 193 pays. Eh bien, je crois que c'est quelque chose qu'on accepte de manière tout à fait naturelle. Ce sont de nouvelles loyautés, ce sont de nouveaux mécanismes, mais ça ne me provoque en moi aucun état d'âme, au contraire.
Alors, Hervé Latsous, vous êtes en charge de 120 000 casques bleus avec un budget de 7 milliards de dollars. Comment voulez-vous répondre aux besoins de certains gouvernements et de certaines communautés désenchantées par le comportement abusif des casques bleus qui étaient initialement dépêchés sur le terrain pour les protéger ?
Écoutez, je dirais 2 choses. D'abord, les comportements abusifs sont très rares. Ils devraient être inexistants. Et de ce point de vue-là, j'entends bien continuer avec une politique qui est très claire dans le département, qui est une politique de tolérance zéro. Je me suis déjà rendu sur le terrain pour voir certaines missions. Je trouve que l'impression qui s'en dégage, c'est d'abord une impression d'admiration pour leur dévouement, pour leur talent, le courage dont ils font preuve.
Alors justement, vous évoquiez vos premières missions. Vous avez voyagé au Soudan et au Sud-Soudan au mois de novembre. C'était votre première mission de terrain en Afrique. Votre visite a coïncidé avec plusieurs flambées de violence. Vous avez visité Khartoum, le Darfour, Abyei et Juba. Que voudriez-vous nous dire à propos de cette visite ? Qu'est-ce qui mérite votre plus grande attention en ce moment ?
Je voudrais dire d'abord que dans le cadre de cette tournée, je me suis également rendu en Éthiopie pour rencontrer l'Union africaine, parce que je considère que le partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine doit aller en se renforçant sans cesse sur toutes ces crises qui concernent la zone africaine au sens large. Alors sur les Soudans, je crois que le sentiment qui domine, c'est un sentiment de relative inquiétude, parce que la relation entre le Soudan et le Sud-Soudan n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y manque incontestablement la confiance. Et tout l'objectif que nous devons viser, c'est d'aider ces deux pays à résoudre leurs difficultés bilatérales, mais à bâtir surtout une confiance qui sera le gage d'une relation plus stable à l'avenir.
Alors justement, quand vous avez rencontré le président Béchir et le président Kiir, y avait-il des signes avant-coureurs de la détérioration des relations entre les deux pays tels qu'on l'observe aujourd'hui?
Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ces deux pays ont pris une décision majeure qui a été celle de divorcer. C'est une décision politique qui s'est concrétisée par l'indépendance du Sud-Soudan au mois de juillet dernier. Mais les deux partenaires, maintenant, doivent fixer les modalités matérielles, justement, de cette séparation. Alors, il y a des aspects qui concernent la frontière, il y a des aspects qui concernent notamment la zone d'Abyei dont le sort devra être déterminé. Il y a des problèmes concernant le partage des revenus pétroliers, il y a des problèmes liés aux accusations que les deux pays échangent de soutenir des insurgés sur les territoires de l'autre. Bref, c'est tout cela qu'il faut essayer de résoudre. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, à la tête du panel du haut niveau, il travaille très très activement avec le concours de l'envoyé spécial Haïlé Menkérios. Bon, et nous sommes évidemment en appui de tous ces efforts.
En RDC voisine, la résolution 1991 du Conseil de sécurité, adoptée le 28 juin 2011, a réitéré que la protection des civils était prioritaire. Aujourd'hui, la MONUSCO, avec ses 19 000 hommes, est-ce qu'elle est, à votre avis, bien équipée pour sécuriser des centaines de milliers de Congolais qui ont fui, eux, leur maison à cause de l'insécurité et des violations continues des droits de l'homme à l'est du pays?
C'est une vraie question, et vous avez raison de le dire, ça se pose principalement dans l'est du pays. C'est une région extrêmement peu développée et pour répondre directement à votre question, je dirais que non, la MONUSCO n'a pas tous les moyens. Il lui manque en particulier des hélicoptères qui sont indispensables quand survient une alerte d'attaque de civils, voire, et ça s'est encore produit récemment, des viols en masse. Il faudrait davantage de moyens pour pouvoir se rendre sur place au plus vite pour agir.
Quels moyens il faut de plus pour les casques bleus de façon générale, le département des maintiens de la paix, pour que ce maintien de la paix soit plus efficace et plus robuste? Il faut plus d'hommes, plus d'argent ou une meilleure organisation sur le terrain?
Je crois qu'il faut sans cesse renforcer et améliorer l'organisation. Les effectifs, je pense, sont en général suffisants. Il faut effectivement davantage d'aéromobilité, dont plus d'hélicoptères, et notamment dans certains cas, comme dans celui du Congo démocratique, des hélicoptères d'attaque, des hélicoptères militaires. Ça, c'est effectivement tout à fait indispensable.
Alors peut-être aussi un rééquilibrage, puisque certaines missions du maintien de la paix, notamment le Libéria et Haïti, sont en état de réduire leurs casques bleus. Où faut-il relocaliser ces casques bleus? Où faut-il les déployer?
Il ne s'agit pas tellement de raisonner en termes de vases communicants. Je crois qu'il faut gérer chaque situation dans le contexte qui lui est propre et sur la base des décisions qui ont été prises par le Conseil de sécurité.
Alors, sur la Côte d'Ivoire, pensez-vous que la mission des Nations Unies est encore nécessaire en Côte d'Ivoire à l'heure où on voit la situation politique dans ce pays largement se stabiliser?
La situation, effectivement, est très largement stabilisée. Pour autant, la force des Nations Unies demeure nécessaire pour accompagner ce processus, pour aider le gouvernement ivoirien à gérer la réforme du secteur de la sécurité, le désarmement et la démobilisation d'un certain nombre de militaires. Ce sont des tâches qui s'inscrivent dans la durée et qui justifieront le maintien de l'ONUSI, peut-être, là encore, sous réserve de la décision du Conseil de sécurité, à un niveau un peu réduit, mais les tâches et les missions demeurent.
Alors, dans une interview exclusive accordée à la radio des Nations Unies, Hélène Johnson-Sirleaf a dit que son pays devrait davantage se concentrer sur le développement et qu'elle allait travailler conjointement avec les opérations de maintien de la paix sur une stratégie de sortie appropriée des casques bleus. Pensez-vous que le Libéria est prêt pour pour cette transition?
Je le pense, c'est quelque chose dont il va falloir parler avec les nouvelles équipes issues de cette élection. Il est clair que nous devons travailler la main dans la main pour gérer ce processus dans lequel le maintien de la paix cède le pas progressivement à la construction de la paix. Le peacekeeping, le peacebuilding, évidemment, le développement, c'est quelque chose qui va justifier un engagement beaucoup plus fort encore de toute la famille des Nations Unies, toutes les agences, tous les programmes qui ont un grand rôle à jouer aux côtés du gouvernement libérien.
Nécessaire que le maintien de la paix ait plus de forces européennes sur le terrain. Est-ce que vous avez envie de faire passer ce message au Conseil de sécurité ou ce n'est pas là le problème?
Écoutez, je crois qu'il y a un constat, effectivement, c'est le fait que ce sont les pays du Sud qui contribuent de très loin le plus aux opérations de maintien de la paix. Les pays du Nord, sont sans doute plus impliqués dans les processus politiques de fixation des mandats, dans le financement aussi des opérations de maintien de la paix, puisque les gros contributeurs au budget sont effectivement des pays du Nord. Il y a un problème qu'il faut arriver à résoudre, et je pense que notamment, il faudrait que davantage de pays du Nord, des Européens et d'autres d'ailleurs, fassent ce qui se fait déjà un petit peu, mais sans doute à une plus grande échelle, pour aider les pays du Sud à s'équiper, à avoir les meilleurs équipements possibles en termes de véhicules, d'hélicoptères, et j'y reviens. Bref, le maintien de la paix, c'est un partenariat. C'est un partenariat entre le Conseil de sécurité, les pays contributeurs de troupes, les pays qui financent, puis bien entendu les pays dans lesquels ces missions travaillent. Et ce partenariat doit être, par tous les moyens, renforcé, amélioré, rendu plus efficace.
Alors, dernière question plus personnelle, Hervé Latsou. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir dans les 3 prochaines années? Et si vous aviez à faire les choses différemment, qu'est-ce que vous feriez de façon différente?
Bon, écoutez, avec un mois d'ancienneté dans le poste, je me garderai d'avoir d'immenses projets de réforme. Non, je crois que la première chose, il faut faire le boulot. We must do the job. Donc, gérer les opérations en cours de la manière la plus efficace et la plus raisonnable possible. Mais en même temps, le maintien de la paix évolue, c'est vrai. Il y a de nouveaux concepts qui apparaissent et au fil des années, toute une série de réflexions sont venues éclairer un peu le sujet. Je pense au rapport Brahimi il y a une dizaine d'années, je pense au rapport Nouvel Horizon il y a 3 ans. Eh bien, tout ce travail conceptuel, il faut le poursuivre et l'approfondir pour que les opérations de maintien de la paix soient toujours en phase avec leur époque et restent un outil totalement pertinent au service de la diplomatie multilatérale.
Merci beaucoup de cet entretien, Hervé Latsous.
Je vous en prie.
Observez le maintien de la paix tout le long de son histoire et contribuez, si possible, à son évolution, tel est le souhait du nouveau patron du maintien de la paix à l'ONU. Grand merci à Hervé Latsous d'avoir été mon invité. Escale est une émission du service magazine de la Radio des Nations Unies. Merci à Zach Prouet et Frédéric Chouinière à la réalisation. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition d'Escale.